France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Comme nous rencontrons régulièrement des personnes qui ont fait appel à un incubateur pour lancer leur activité entrepreneuriale, nous allons profiter de l'existence de l'un d'entre eux dans le département de l'Oise, mais dont les services couvrent l'ensemble des Hauts-de-France, pour nous interroger sur l'utilité de ces accélérateurs économiques. L'incubateur en question s'appelle Itera. Ensuite, nous serons en lien avec Sylvie Le Calvez et son magazine Village, dont le numéro d'hiver fait un tour d'horizon des tiers-lieux qui fleurissent partout en France.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Agathe Vigmenot, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez Itera, c'est joli d'ailleurs, Itera. Itera, c'est l'incubateur, l'accélérateur du sud des Hauts-de-France pour tous les projets innovants. Alors déjà, je sens des cheveux qui se dressent sur la tête en disant « Ah oui, l'innovation encore une fois. » Et puis c'est quoi un accélérateur et surtout c'est quoi un incubateur? On en parle régulièrement. Certains disent c'est pas très utile. D'autres disent c'est essentiel pour lancer une activité économique.
Je crois que la vérité doit être entre les deux, c'est-à-dire que ça n'est pas incontournable et je pense que certains peuvent faire sans. La manière dont nous concevons notre rôle au sein d'Itera, c'est vraiment de raccourcir le chemin vers les informations qui sont importantes. Comme vous le savez, il y a pléthore maintenant de sites internet, dans les réseaux sociaux, de tutos et autres. Et nous permettons de trouver la bonne information au bon moment pour le porteur de projet ou le chef d'entreprise qui veut trouver un relais de croissance à travers un projet innovant.
Très souvent, il y a une phase d'aide en deux parties. La première, c'est une préparation, une évaluation du projet. Et la deuxième, c'est la concrétisation sur une plus longue durée.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est plus la phase d'incubation qui a pour but de valider s'il y a réellement un marché, que ce marché est solvable, qu'il est atteignable. Et donc, on va valider, bien sûr, le produit, le prototype, le produit minimum viable. On va vérifier la preuve de concept, l'existence du marché et que le modèle économique, évidemment, est pérenne. Et si tous ces éléments sont réunis, on va pouvoir délivrer un go au porteur de projet ou à la porteuse de projet qui va pouvoir créer son entreprise. Mmh. Et là, s'ensuit effectivement une autre période qui va voir la concrétisation et nous espérons pour le porteur de projet les premiers contrats conclus et les premières ventes réalisées.
Quel sens donne-t-on à un projet dit innovant ?
Alors, c'est un sens pour moi qui est très large, parce que je sais que pendant longtemps, l'acception du mot innovation, c'était lié à scientifique, industriel, technologique. Or, vous comme moi, on a déjà fait des emplettes, nous a demandé d'arrondir pour payer l'euro solidaire, et donc ça, c'est une innovation, alors même qu'il n'y a pas vraiment de dépôt de brevet. Donc, on a tous aussi scanné quelquefois des appareils ou des ingrédients qu'on utilise avec la célèbre appli dont je tairai le nom. Et cette appli-là, c'est aussi une innovation quand bien même il n'y a pas de propriété intellectuelle et de dépôt de brevet. Donc, l'innovation, elle peut être aussi organisationnelle, elle peut être marketing. Mmh. C'est une nouvelle manière de faire des choses. Ce sont des nouveaux usages.
On est éligible à une incubation à partir de quel moment et sur quelle base ?
Alors, je peux vous parler des règles qui ont cours chez nous. On est éligible à partir du moment où on passe devant un comité de sélection qui va examiner que ce n'est pas simplement un projet qu'on aurait eu le matin sous sa douche, mais qu'il y a eu quand même des premières recherches au moins exploratoires. Et puis surtout une volonté, un engagement. Parce que un projet de création d'entreprise, ça peut pas être un projet pansement. C'est un projet qu'on a mûri, on a vraiment envie de se lancer. Donc on va vraiment jauger de l'engagement et de la disponibilité du porteur ou de la porteuse de projet.
Ça coûte cher ?
Mais dans la plupart des incubateurs, ça ne coûte rien. Alors, j'aime à dire que rien n'est gratuit. Donc, si ça ne coûte rien à l'instant T, un porteur de projet, c'est bien que quelqu'un d'autre paye. En l'occurrence, c'est souvent le contribuable, puisque nous travaillons, nous, essentiellement avec de l'argent public. Et donc, chez Itera, en tout cas, nous travaillons sur un principe de redevabilité. C'est-à-dire que nous expliquons aux incubés que nous comprenons qu'à cet instant T, ils ne puissent pas payer l'accompagnement. Pour autant, cet accompagnement, il est de qualité, il vaut quelque chose. Et nous, on table sur le fait que quand ils auront créé, et nous espérons qu'ils auront eu un grand succès, ils vont pouvoir matérialiser la dette auprès d'Itera et pouvoir faire un retour financier, non pas simplement pour que nous dégagions des bénéfices, mais simplement pour pouvoir aider les suivants qui vont arriver au sein du terrain en incubation. Et puis on sait qu'on est tous dans un contexte évidemment de baisse de la dépense publique, donc les subventions vont s'amenuisant. Il est important pour nous et pour tous les autres incubateurs d'hybrider la ressource et surtout que cette ressource, elle vienne aussi de la part de ceux qui auront bénéficié de ces services d'accompagnement.
Alors ça donne le préfabriqué, par exemple, parmi la communauté d'Itera, le tout développement d'une gamme de matériel agricole modulable et réparable, c'est Ciao Mégot. La dépollution, le recyclage écologique des mégots de cigarettes, par exemple, en isolant éco-conçu, c'est autant de choses que cela, très variées. Et depuis 2019, déjà 80 projets d'entreprises ont été accompagnés, 14 créations d'entreprises et 27 emplois créés.
Tout à fait. C'est un très très beau succès, mais qu'on doit aussi au fait que nous avons bien travaillé l'écosystème local. Nous sommes pour l'instant 4 chez Itera, donc vous pensez bien que nous ne faisons pas ça tout seul. Et nous avons des relais vraiment très très forts, en tout cas sur le territoire. Nous travaillons avec un réseau de prescripteurs, des noms qui vont vous dire quelque chose, la BPI, des plateformes d'initiatives locales, la BGE, les chambres de commerce. Et donc il faut des gens qui ont l'habitude de travailler sur ces genres de secteurs pour accompagner ces projets.
Le site c'est itera.fr. Merci Agathe.
Mais merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Le courriel envoyé par Mayol, professeur d'histoire, est un beau message de relations intergénérationnelles bâti sur une mémoire historique. Cet enseignant est à l'origine, en effet, d'une initiative basée sur un partenariat entre le ministère des Armées et celui de l'Éducation nationale et qui, depuis 7 ans, soumet à des collégiens la rédaction de cartes de Noël à destination des vétérans alliés de la Deuxième Guerre mondiale. Avant l'envoi de ces cartes dans quelques jours, une cinquantaine d'élèves du Collège Saint-Louis à Cabourg achèvent la rédaction des quelques 800 cartes de Noël, dont certaines trouvent une réponse adressée aux jeunes de la part de ces vétérans. Cette opération, comme l'écrit notre correspondant, répond à une attente des jeunes qui ont conscience de leur chance de vivre en paix et qui veulent remercier ceux qui, il y a 80 ans, s'engageaient pour rétablir la démocratie. Et c'est par un pur hasard, je vous confie aussi la lettre dénonçant l'initiative d'un ancien militaire, Arnaud, qui a créé récemment une start-up qui commence à faire parler d'elle. Elle s'appelle Big Gift et son principe est aussi simple qu'il est efficace. Comme à chaque fois, Arnaud souhaitait offrir un cadeau à sa sœur qui vit à l'autre bout de la France, mais ne connaissant pas le contexte des commerces de proximité, l'idée lui est venue de créer un chèque cadeau utilisé par la destinataire près de chez elle. L'affaire s'est emballée, 16 000 commerces partenaires et la société a émis déjà plus de 500 000 chèques. L'objectif est de participer à la vie des centres-bourgs et des économies locales. Biggift.fr. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Chère Sylvie, directrice de publication du magazine Village, faut-il encore le dire? Oui, je le répète. Le site c'est villagemagazine.fr si vous voulez tout savoir. Le numéro d'hiver vient de sortir avec un gros dossier d'un sujet que l'on traite très régulièrement, mais c'était bien de faire un point 10 ans plus tard, celui des tiers-lieux. Vous avez trouvé un beau titre, les tiers-lieux ensemble c'est mieux, et c'est bien vrai. Selon le rapport mis par France Tiers-lieux au gouvernement qui a lancé une politique de soutien de développement de ces lieux, de ces espaces hybrides, il y en aurait 2200 en France. Alors vous avez fait un tour des opérations, mais c'est peut-être bien de rappeler dans ceux que vous avez fréquentés, Sylvie, à quoi ressemblent ces tiers-lieux aujourd'hui?
Oui, c'est notre journaliste Emmanuel Mayer qui a fait cette enquête depuis un tiers-lieu. Depuis la Cocotière à Émoutiers, en Haute-Vienne. Ça, c'était pour l'anecdote. Donc, effectivement, on a fait, pas un tour de France, effectivement, il y a plus de 2000, mais ça augmente en plus à vitesse grand V, oui. Puisqu'on était à 1800 en 2018. Donc, ça augmente parce qu'il y en a plus, ça augmente aussi parce qu'avant, on ne les comptait pas. Puisque c'est tellement multiforme, un tiers-lieu, c'est un espace de lien, d'émancipation, d'initiative collective, où on vient à la fois travailler, mais en même temps, on fait des passerelles avec d'autres types d'activités, on rend service à la population locale, parfois il y a des coins épicerie, parfois ça fait concert, et donc c'était dur de recenser. Donc effectivement, il y en a de plus en plus de ces lieux, dont on a besoin aujourd'hui, surtout après la crise sanitaire, et en plus, parfois, il y avait des tiers-lieux lieux qui ne se nommaient pas. Donc, effectivement, le nombre augmente. Donc, faire un tour, ça aurait été très prétentieux. Par contre, de voir les forces et les difficultés de ces tiers-lieux, ça nous a paru important. Mmh. Et il y a vraiment de toutes sortes de tiers-lieux. Donc, c'était dur d'analyser toutes les conditions de réussite et les difficultés. On a quand même essayé de faire une fiche hein, avec les acteurs sur réussir son projet de tiers-lieu pour montrer quelles étaient les conditions pour que ça marche. Hein, et notamment de partir d'une très bonne communauté, d'avoir un lieu convivial. Hein. Un tiers-lieu, c'est chaleureux. Sinon, ça s'appelle un centre d'affaires. J'aime beaucoup cette citation.
J'aime beaucoup aussi la citation de Lucille qui dit « On entre seul dans un tiers-lieu, mais on en ressort à plusieurs. »
Oui, c'est vraiment un lieu... souvent qui favorise d'ailleurs l'intégration de nouveaux arrivants sur le territoire. C'est pas son objet premier. Son objet premier, c'est de partager des connaissances, des compétences, des réseaux. Mais souvent, quand on arrive sur un territoire, et on l'a bien vu avec les difficultés que ça pose suite au Covid, d'arriver dans un nouveau lieu où on connaît personne, et on veut pas travailler tout seul chez soi sur son ordinateur, donc on va profiter de ce tiers-lieu où il y a souvent des espaces de coworking, de travail partagé. Et effectivement, on y arrive seul, un peu perdu, et puis on prend le café. On discute, on échange, on voit les compétences des autres. Ça peut être des artisans hein, à côté. Il y a des réparateurs de vélos. Enfin, ça dépend des tiers-lieux. Et on ressort on un peu gonflé à bloc en disant mais il y a plein de choses à faire, plein de choses possibles. On se sent plus tout seul d'un seul coup. Donc c'est vraiment un outil dont on a particulièrement besoin.
Vous émettez des doutes ou du moins des réserves quant au risque d'institutionnalisation et vous dites ça peut fragiliser le système ou en tout cas le codifier, ce qui n'est pas tout à fait la cause première des tiers-lieux.
Ouais, les tiers-lieux, ils sont nés après les espaces publics numériques qui étaient des outils très institutionnels montés par des collectivités qui souvent pouvaient rester vides, hein, en tout cas vides des habitants des locaux. Et après, il y a eu ces tiers-lieux très associatifs, hein, presque des ZAD en gros. Et aujourd'hui, ils sont recensés, ils sont soutenus, et tant mieux, par les régions, par les départements parfois, par l'État. Et il y a pléthore d'appels à projets des régions, la fabrique de territoire, je ne vais pas tous les nommer, hein, de l'État. Et le problème, c'est qu'ils passent plus de temps, les facilitateurs, comme on les appelle, les animateurs des tiers-lieux, parfois à remplir les dossiers, à essayer de rentrer dans les cases, dans les clous, pour avoir des financements, que finalement de faire vraiment leur mission d'animation, quitte à y perdre un peu leur âme, parce qu'il faut réaliser tel service pour pouvoir répondre à tel appel à projet. Et ça, là-dessus, il y a un petit risque. Donc c'est super qu'il y ait des politiques qui soutiennent ces lieux-là, puisqu'on en a besoin. Mais en même temps, il faut non pas faire des usines à gaz où on va passer plus de temps à recréer de l'institutionnel qu'à faire vivre une communauté, puisque c'est quand même bien le but, c'est que les habitants trouvent des services, trouvent des réseaux utiles pour leur vie personnelle ou pour leur activité professionnelle.
Absolument. Alors vous dites service, Sylvie, avec le déploiement des maisons France Service dans les communes, qui seront des guichets uniques où on pourra avoir toutes les informations nécessaires pour n'importe quel citoyen, citoyenne. On va se retrouver aussi en concurrence.
Elles font des activités complémentaires. C'est là qu'on va trouver le bureau pour la CAF, pour la Sécu, etc., pour Pôle emploi. Donc ça, c'est important. Mais attention de ne pas être sur les mêmes activités et puis peut-être de mutualiser des lieux, des moyens et de travailler en tout cas en bonne intelligence entre ces nouveaux services, à la fois France Service, donc guichet plutôt public, et puis ces tiers-lieux associatifs, lieux de vie. Oui.
Dossier très complet sur les tiers-lieux 10 ans après pour ce tour d'horizon dans l'édition d'hiver du magazine Village, villagemagazine.fr. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.